3, 2, 1!
Salut ma gang de passionnés de musique, salut. Bienvenue à La Paire d'écouteurs, épisode 4, saison 2, avec mon cher Adic Lacro.
Lui, j'ai trop battu.
Et oui, on a
c'est
4,
moins frais au buffet,
4 segments cette semaine, comme à l'habitude, l'état critique, l'oreille chronique, côté B, 45 tours, et puis ben, avec l'oreille chronique, on continue avec nos invités qu'on vous présentera tantôt. Donc on commence tout de suite avec l'état critique. Cette semaine, on parle d'une nouveauté. Là, ben, habituellement, c'est ça le but du segment. Mais là, c'est tout frais, tout chaud.
Juste
je dirais mon collègue Adic Lacro. Ouais. C'est Sound of Serence, je l'ai reçu. Et,
ben,
c'est sorti le 4 mars officiellement. Sound of Serence, c'est sur l'étiquette Joyful Noise. Joyful Noise, qui est difficile à dire, mais aussi abrite quelques artistes intéressants. Je cite au passage ici Lou Barlow, son dernier solo qui est sorti là-dessus. Half Japanese, Surfer Blood, David Young en solo, de Jesus Lizard. Fait que tu vois déjà à quel point le label est assez éclectique. Ici, on a après trois albums de Candy Claws, on a ici Karen et Ryan Over, qui évolue sous le nom de Sound of Serence. Fait que c'est comme
c'est
du Candy.
Des frères et sœurs ou mari et femme, je sais pas.
Je pense que c'est un couple.
Ouais, ok, c'est bon.
Puis qui évolue maintenant sur le nom de Sound of Serence. Se sont agrippés à deux autres personnes de Apples in Stereo. Et puis. Trois personnes d'Apples in Stereo. Ok.
Oui.
Et puis Jacob Graham de Drums.
Oui, exactement.
Alors ça, non, c'est un espèce de concept. L'album s'appelle Nostalgia for Infinity. Fait que tu vois-tu nostalgie pour l'infinité, l'infini, en fait. Donc, c'est assez... ils se disent un album conceptuel. Un peu une relecture que je dirais métaphysique. Ça, c'est leur dire. De la chanson The Girl from Ipanema. The Girl from Ipanema, tu connais cette fameuse chanson Bossa Nova des années 60. Ben oui. Ben oui, tu connais, c'est sûr et certain. Qui a été écrite à l'origine par les Brésiliens Antonio Carlos Jobim et Vinicio Moraes dans les années 60. Et puis, ben, c'est une espèce de relecture de cette fille-là, mais maintenant transformée en espèce d'orbite stellaire. Sérieusement, est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à évoluer dans ce qui est le concept, parce que, regarde, ben, en fait, oui, je vais juste m'amuser. Cette fille-là, qui est maintenant rendue une espèce d'astre, et puis c'est un croisement entre le roman de Marcel Proust et La recherche du temps perdu. Là. Chercher le lien, là. Chercher ce qui se passe avec ça, c'est buzzé. C'est buzzé comme à peu près la musique que cet album-là représente. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, M. Lacto?
Ben, moi, j'ai des petits sons ambiants que j'ai découvert justement avec l'album de Tame Impala, Currents. Là. Je le retrouve un petit peu là-dedans. Je trouve que c'est moins rythmé que ça aussi.
On est dans le Space Age Lounge. Tu sais, l'espèce du soundtrack des films James Bond italien, européen surtout. Une espèce
des films d'horreur des années 70. Hein,
un genre de beach en rock, mais pas rock.
Il y a un peu de Beach Boy, puis en faisant des recherches, tous les membres qui sont affiliés ensemble, c'est tous des amateurs des Beach Boys.
Pour vrai?
Oui, tu sens le truc là-dedans. Puis là, je voulais montrer le beau vinyle, il est bleu, regardez, c'est fantastique.
C'est un beau disque.
Oui.
Moi, j'ai écouté ça, je l'ai écouté à plusieurs reprises pour vous autres, faire un état critique. J'ai écrit comme ça sonne comme un soundtrack d'un film de Jap Animation qui aurait le titre comme Les aventures de Frisinette dans le lounge intergalactique des sucres bleus. Tu sais, dans le sens que c'est un peu de la dream pop, mais ça va un peu plus loin que de la dream pop. Une espèce de promenade.
Pas mal ambiant, j'ai trouvé ça.
C'est ambiant, mais ouais. C'est de la bossa nova aussi. Il y a une espèce de funk, là, à un moment donné, je trouve qu'ils ont été... pour ceux qui connaissent l'album, le dernier Jaga Jazzist, avec Starfire, machin, je trouve qu'à un moment donné, parce qu'il y a une espèce de des beaux arrangements de cuivre là-dedans.
C'est James Bond que je l'ai trouvé à cause des cuivres.
S'il y avait eu un beat plus soutenu ou machin, ça aurait pu être aussi du trip-hop. En tout cas, on vague dans toutes ces espèces de palettes de couleurs-là intéressantes. C'est dans l'espace, ça c'est sûr et certain. De toute façon, conceptuellement aussi, c'est comme ça. À quoi ça ressemble? La bémol, en fait. On va y aller tout de suite avec la bémol. Je trouve que la voix de Karen et même la voix de son chum, ou je sais pas trop, là, vous me le direz. Son espèce de filet de voix.
C'est les voix des autres membres.
C'est qu'à un moment donné, on chante trop comme... On entend juste ça. Ouais. Et quand il y a beaucoup d'orchestration, puis la tune est en jouée, où il y a beaucoup d'instrumentation, on perd des mots des chanteurs. Ça, ça m'énerve vraiment. C'est juste un filet de voix. Je trouve pas que ça fit avec toutes les couleurs qu'ils ont voulu mettre.
Conclusion rapide.
Pour ceux qui s'ennuient de la formation Broadcast depuis que la chanteuse est décédée, c'est du Broadcast réincarné en quelque sorte. Les fans de DXX, on parle de Beach House, je dirais même jusqu'à la voix un peu de Mazzy Star, Kazu Makino des Blonde Redhead, Christina Anna, l'ancienne membre de Moom aussi, pour la voix filantreuse comme ça. Si jamais ça vous tente d'aller voir, d'aller écouter, si vous aimez, sachez qu'ils seront en spectacle au Quai des Brumes à la fin du mois, au 31 mars. Je verrai si j'y serai. Moi, j'ai bien aimé l'album, mais en conclusion, t'as-tu apprécié?
Ben, aussi? Moi, c'est un album, c'est sûr que c'est pas le party quand t'écoutes ça. Là. C'est... t'écoutes ça avec, t'sais, avec ta douce moitié, tu peux passer une belle soirée en mettant ça en arrière. Ce vinyle-là.
Tu la douce moitié, moi, c'est mon côté gauche.
Hein?
Je le trouve plus doux.
Ouais, ok.
La douce moitié.
Bon, c'est bon.
On va y aller tout de suite avec l'oreille chronique. L'oreille chronique, cette semaine, on reçoit...
Spécial, encore une fois.
C'est plus des spéciales, on est rendu habitué à l'épisode 4. Mais ce qu'on reçoit de spécial, c'est un scientifique culinaire, c'est de l'ingéniosité mangeable.
Oh my god.
On y repassera. C'est un peu louche, le dernier terme que j'ai utilisé. Mais on reçoit le chef cuisinier, Alexandre Loiseau, puis on est bien content.
Ouais!
Mon cher Alex, bienvenue à la part des poutons, mon ami.
Merci de m'avoir invité.
Alors, de quel album tu viens nous parler cette semaine?
Ben, cet album de Cluster. Ah, parfait. Zucker Zeit, qui est sorti en 1974 sur Brain Record. Pourquoi je viens vous parler de ça? Parce que je me suis mis demandé à triper sur le Krautrock.
Mm-hmm.
Puis, je pensais jamais aimer la vieille musique.
Mm-hmm.
Puis, j'aimais pas quand...
Parce que du Krautrock, c'est de la vieille musique, c'est ça?
Ouais, c'est les années 70 en Allemagne, dans ce cas ici c'était à Berlin. Mais quand j'étais jeune, j'aimais pas vraiment le son de la vieille musique, puis tout ça. Puis là, j'écoutais plein de sortes de musique, j'ai eu comme du punk jusqu'au folk, jusqu'au rock, du shoegaze, n'importe quoi. Puis tout le monde me parlait, faut que t'écoutes du krautrock. Puis pourquoi, demandé, j'en écoutais, j'étais pas certain. Puis je suis revenu, puis là, j'ai découvert plusieurs groupes qui étaient vraiment intéressants. Puis c'est parti de ce moment-là, j'ai commencé comme par les classiques, là, Kraftwerk, Can, Neu. Puis je suis tombé sur Cluster, là, qui m'a fait vraiment découvrir.
Qui est juste là aussi.
Ouais, exactement. Qui m'a fait vraiment découvrir ce côté électronique.
Ouais. Parce que du krautrock, c'est pas juste électro, là. Tu sais, c'est pas juste du bidouillage électronique, c'est aussi rock, là.
Ouais, il y a un côté rock de certains groupes. Comme Faust, Neu aussi s'en est aussi, Can aussi, ouais. Ça c'est le côté vraiment rock du krautrock. Mais là, ouais, exactement, cet album numéro 4.
Ouais.
Et puis, c'est pour ça que j'ai décidé Cluster, parce que c'est vraiment le côté électronique. J'écoutais beaucoup de musique électronique, puis ça m'a ramené justement ce côté-là de Cluster, où dire, oh, c'est le début, c'est plus vieux que moi. Je pense que si tout le monde est né après 76, moi je suis en 76.
Ouais, fallait pas le dire.
C'est ça, là, c'est comme en 74 cet album, puis là, j'ai comme juste tombé sur le derrière en écoutant un peu les sons qui sortaient de déjà du beatbox un peu vieillot, t'sais, comme un peu tout croche. Ensuite, des synthétiseurs vraiment là, comme. Comme sirupeux, vraiment intense. Puis je reconnaissais plein d'influences. Puis là, je me disais, OK, ben là, ça comme pas d'allure. Là, comme je commençais à chercher, puis chercher. Puis là, je suis tombé sur ça, Cluster. Puis là, après ça, ça m'a emmené à fouiller plus loin, parce qu'ils ont 13 albums au total. Fait que là, je tombe, Brian Eno collaboré avec eux. Là, c'est tabarnouche à qui
vient, ça. Là, avec Harmonia aussi, au passage, Brian Eno. Brian Eno, c'est quasiment un des pionniers aussi du krautrock, le répète.
Ouais, c'est un ingénieur de son. C'est un gars qui, avant de connaître Cluster, dans le fond, quand il les a connus, il a juste déclaré que c'est un des meilleurs groupes au monde. Puis cet album-là, justement.
De Cluster, il parlait?
Ouais, il parlait de Cluster. C'est que c'était un des meilleurs albums qu'il avait jamais entendu de sa vie. Puis il s'en est inspiré pour faire Another Green World, pour faire des capsules, tu sais, vraiment, de la façon que ça a été fait, tu sais.
Okay.
Puis à partir de ce moment-là, il s'est joint au groupe, comme en 77. En 78, là, il a comme produit Cluster and Eno, puis après ça, sous le nom de Rodelius, Mobius, puis Eno, qui c'est comme la continuité. Puis il était ingénieur de son pour eux aussi par après. Puis il a collaboré aussi avec Connie Plank, là, qui était comme l'ingénieur de son du krautrock au complet.
J'ai connu aussi.
Ben, t'avais
ta phrase
de terminer? Non,
c'est
bon, tu peux y aller.
J'ai connu krautrock, le krautrock sur le tard parce que. Ben, en fait, c'est bizarre.
Mais c'est quoi vous aimez là-dedans? Là?
Attends, je vais finir mon idée. Je dis sur le tard parce que, tu sais, il n'y a pas longtemps, on s'est échangé des CD, bon, Harmonia, tout ça, tu m'as plus plongé dans le style. Sauf qu'on se rend compte que du krautrock. Oui, ça a commencé dans les années 70, mais c'est là tout le long.
Ouais.
Je veux dire, c'est encore là aujourd'hui, tout ça, puis finalement, on en écoute tous, puis...
Sans le savoir.
C'est ça, exactement. C'est un mouvement... Peut-être ça répond à ta question, dans le fond, parce que c'est un mouvement qui était tellement... qui a tellement influencé de gens, mais qui est tellement... qui est
sous-développé.
C'est quoi, tu trouves que ça a influencé?
Ouais.
Le jeu vidéo. J'avais l'impression...
Oui, ben dans des trucs cosmiques.
Il y avait la chanson Rosa là, sur l'album.
Ouais.
J'étais dans un... Je suis retourné dans mon enfance. On dirait jouer à, je sais pas, Megaman ou whatever.
T'as raison.
Puis je me dis, on dirait qu'ils sont inspirés du krautrock pour...
Mais ils appelaient ça de la cosmiche music. Kraut, ça vient de choucroute, dans le fond.
Okay.
Puis c'est les Anglais qui ont appelé ça. Il n'y avait pas de qualificatif.
Okay.
Les Allemands l'appelaient cosmiche music.
Okay.
Musique cosmique, bien sûr.
Ouais.
Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, les Anglais ont commencé vraiment à triper solide sur cette musique-là. Fait que là, ils ont dit, ah, non, c'est la musique d'Allemand, qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? La choucroute. Fait qu'ils ont fait le lien. Fait que là, après ça, je vais faire une belle recette.
C'est pas ça, krautrock. Pas crotte, hein? Toi, t'as dit krautrock, là.
C'est ça. Mais qu'est-ce qui est.
Pas voulu.
Qu'est-ce qui est intéressant dans ce style-là? C'est le style vraiment minimaliste.
Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Excuse.
Je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment le style minimaliste et répétitif qui devient un petit peu vraiment, tu sais, comme aliénant, tu sais, à la langue et tout ça. Fait que c'est ça qui est intéressant.
C'est là-dedans que j'embarque pas.
Mais tu sais, on dit qu'un cluster, c'est un petit agrégat, puis là, c'est pas moi qui l'ai écrit, là, j'ai vraiment comme juste copy-paste.
Okay.
Un cluster est un petit agrégat d'atomes doté de propriétés particulières. C'est un terme anglais qui désigne un agrégat atomique. Donc, c'est très moléculaire, la bébelle. Donc, quand tu dis, là, ça devient, moi j'écoute ça, puis même si c'est tout le temps pareil, parce que justement, pourquoi Zucker's Eye plus que ça, oui, so-so, ou etc., etc., ça ressemble tous, mais ils font tous du bien, parce que ça vient se promener un petit peu partout, c'est des petites particules, on est dans le stellaire, là. On est un petit peu dans le métaphysique, là. Puis ben, c'est une musique qui procure du bien, on n'est pas obligé de tout le temps d'avoir, mon cher Adig, un riff, un refrain pour appeler ça de musique. Là.
Non,
on s'entend là-dessus.
Non, je sais.
Donc, c'est une musique, moi, je trouve qui fait du bien, puis qui finalement, comme tu dis.
Ben, ça te plonge dans la lune, tu sais. C'est comme le regard du chevreuil.
Ben,
tu es hypnotisé par la musique, ouais, tu sais, c'est comme ça. Puis là, tu perds la carte, là, tu viens juste de faire un voyage musical en écoutant ça, parce que, tu sais, c'est du répétitif. Écouter une musique pendant. Une chanson pendant 10 minutes. Puis comme Michael Rutter expliquait, ben, lui, il est composé en regardant la rivière couler, puis ben, la rivière coule tout le temps de la même façon, il joue tout le temps de la même façon. Puis ça,
et oui, et pourquoi pas? Ça donne de quoi de très intéressant. Mais mon cher Alex, on se reverra, puis j'invite les gens, ceux qui veulent jaser un peu plus krautrock, etc., de venir nous voir dans une semaine, où on va poster un peu, on va aller jaser nous autres après l'émission, notre segment qui s'appelle l'intervalle avec notre cher Alex, mais pour l'instant, tu dois débarrasser. Ciao!
Merci! Ciao!
Alors nous, ben, on se grouille, on y va tout de suite avec le côté B. Qu'est-ce que c'est que le côté B cette semaine, mon cher Adi?
Le côté B, en partant, le segment, c'est des singles qui ont sorti d'un album très populaire qui a été sur les palmarès.
C'est Brian Eno qui a fait ça.
Oui, bon, ben bravo, mais je l'avais écrit, mais c'est
vrai. Moi, l'avais écrit.
Exactement.
Fait que c'est ça, il y a eu des singles qui ont sorti
moins de temps,
sur les palmarès.
Tu m'interromps comme ça, puis on perd moins de temps.
Mais là, je perds du temps parce que tu m'interromps.
C'est juste si on fait exprès.
C'est Bono chantant.
Ok, ça suffit.
Ouais, c'est assez.
C'est un album qui est sorti en.
Ben, c'est ça, qu'il y a eu plein de singles sur les palmarès. Puis nous autres, on essaie de trouver un autre single qui est aussi bon que
ceux qui ont. Ben, alors, ceux qui nous suivent se souviennent que il y a deux semaines, on parlait de Michael Jackson Thriller où on avait quasiment inversé le jeu.
Ouais.
Dans le sens qu'il n'y avait plus de singles disponibles. L'album était au chart quasiment au complet. Il restait deux tunes.
Ouais.
Même s'il y en a eu beaucoup là-dessus, il faut les citer dans le segment.
Ouais.
With or Without You. I still haven't found what I'm looking for. Oui. Where the streets have no name, in God's country, puis One Tree Hill. Vous entendez les trois premiers, là. C'est quasiment les trois premières tracks aussi de l'album. C'est ceux qui ont propulsé U2 aux États-Unis. Et après, internationalement, mais vraiment, qui ont été marqués.
25 millions d'exemplaires.
Puis c'est le cinquième album de U2. Moi, sérieux, j'ai tout le temps pensé que c'était le deuxième. Il y avait eu l'autre avec Bloody Sunday, machin. C'est ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ben, pas qu'est-ce que t'en penses, mais quel serait ton single parmi ceux qui restaient? Moi, je trouve qui a commencé trop fort le disque. C'est-tu parce que c'est-tu vraiment les meilleures tunes que U2 ont sorties sur ce disque-là ou c'est juste parce qu'ils nous les ont vendues puis nous ont gavé avec? Parce que sincèrement, même à ce jour, c'est encore With or Without You, Still I've Been Found puis Water Street, c'est encore d'excellentes tunes. Ouais. Puis il commence le disque de même. J'ai l'impression que tu le restes.
Without You, c'est une de mes chansons préférées de sentimental, whatever. Mm.
Puis, il paraît qu'il pleure de l'urette à chaque fois qu'il écoute.
Ça, c'est une.
C'est un phénomène rare.
C'était une locomotive pour la toune suivante que moi j'ai choisie, qui est Bullet de Blue Sky, qui est tout de suite après Without You. Fait que quand j'écoutais l'album, je tombais tout de suite sur celle-là et okay. Elle me rentrait dans la tête.
Okay.
Elle est politiquement engagée, ça parlait de la guerre civile. La guerre civile au Salvador, puis que les Américains avaient donné des armes à un clan, puis tu sais, ils s'en venaient en Amérique avec cet album-là, fait qu'ils ont comme un petit peu brossé
cartes avec ça, c'est ça qu'ils voulaient faire.
C'est très Americana comme son, gospel, un peu comme...
Tu vois, moi, Blue in the Sky, j'avais dit que ça ressemblait du genre d'Inexis Visit the Doors, mettons. Ouais. Moi, mon single s'est arrêté sur Red Hill Mining Town,
ouais.
Qui aurait pu facilement être un single au lieu de peut-être In God's Country, que j'aimais peut-être moins. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été un single à la place, mais en tout cas, au moins, il y a une autre bonne tune à part les trois premières.
Une minute.
Fait que, une minute, ouais, ouais. Ben, pas de problème.
Moi, ben, on voulait dire, moi, je voulais dire que Daniel Lanois et Brian Eno ont réalisé cet album-là.
Répète pas, ouais. Les bébelles, on n'a pas
le temps. Ils ont travaillé avec U2 sur l'album précédent de Unforgettable Fire. Puis c'est Acton Baby après aussi.
Ah ouais? Je savais pas que c'était un jusque-là.
C'est ça. Mais ça puis Daniel Lanois, il avait trouvé avec The Edge un genre de corridor.
Un corridor. Hey!
Pourquoi j'ai dit ça? Non, mais ils ont trouvé le son de The Edge. Ils l'ont comme développé ensemble. Ça a fait le son de U2 après la guitare de The
Totalement,
Edge.
Totalement. Mettons, là, si on met de côté la controverse, pas si on met de côté, mais si on parle justement la controverse de U2, là, parce que ça, c'est un crise de bon disque. Puis depuis qu'ils nous ont assez gavé un album de force,
ouais.
On dirait que U2 sont rendus stupides. Même quand Bono, l'été d'après, avait pas eu un accident de bicycle.
Tu sais
qui
a fait la caisse de l'eau?
C'est pas lui qui a fait la caille, Bonon. Fait que tu comprends-tu que regarde, aujourd'hui, là, mes chers amis, là, le CD n'existe plus. On dit que le vinyle n'existe plus, il revient, il y a ci, il y a ça.
Ouais.
Laissons les gens essayer d'expérimenter avec les nouveaux médias. Ils nous ont donné un album, Calvar. C'était juste à chier au vidange, là. Non, mais je veux dire,
dans la gorge.
Est-ce qu'il y a eu des pétitions à U2, fuck U2? Y a-tu eu des pétitions contre c'est quoi? Ils nous gavent à tous les matins avec des hosties plates.
Ah, ok, t'as
tu des pétitions contre ça? C'était mon éditorial, mesdames et messieurs. Alors, nous allons poursuivre tout de suite avec notre fameux 45 tours, mon cher Dave, par le calculo matin.
Ouais, faut que... On va aller vite, le 45 tours, c'est des albums qu'on a écoutés en rafale et on.
Ça,
on dit, c'est bon, ça. C'est pas bon. À la poubelle ou dans le seau, là. Un seau spécial. Le premier, je vais parler de Daughter Not to Disappear. Je dis un nom. Folk indie ambiant. C'est la musique pour danser du contemporain. Puis c'est le même tout le long. Puis j'ai trouvé ça.
Ben, je vais vous avouer, chers amis, que ça, je m'en souviens plus de Daughter. Je l'ai écouté, puis je l'ai pas en note. Là. Je m'en souviens pas, mais il me semble que c'était non. Bon. OK. Le mien maintenant, c'est le dernier Animal Collective. Je crois que c'est le 10e album déjà du groupe, du trio pop expérimental. L'album s'appelle Painting With. Et je dis oui. Par contre, faites attention, Animal Collective. Ah ouais, cool. Ah, tu me diras tantôt, je vais me dépêcher parce que faites juste attention. C'est l'album le plus accessible. C'est peut-être pour ça que vous avez été chercher M. Lacroix. Sauf que dans l'amalgame de feux d'artifice, de machin, si on enlève tous les sons habituellement que vous nous mettez, c'est l'album le plus facile d'accès. En ce sens que le squelette musical, c'est le plus simple.
Okay.
Donc, moi, j'ai trouvé ça quasiment fatigant parce que connaissant les modes collectifs depuis un bout, j'aimais mieux quand c'était plus structuré, etc. Une structure pop, juste avec des artifices psychédéliques, là, on s'entend, à un moment donné, ça finit par nous taper scénar. Pourquoi je dis oui dans ce cas-là? C'est que l'album au complet d'une shot de A à Z, il est long, des tunes fragmentées.
Ouais.
Ici et là, ça demeure de belles compétences.
Ben, j'ai plus le temps, mais j'ai dit oui.
Bon,
un beau cafouillé, mais tout bien ensemble. Les gars jouent peut-être leur bébelle, mais ça marche.
Ben oui, c'est un joyeux chaos. Ouais. Voilà.
Okay. Kanye West, The Life of Pablo.
Ah, non, on a-tu vraiment de temps?
Ouais, j'ai dit non. Il dit rien d'intéressant, à part la tune Real Friend, je pense. Ouais, ouais, cool. Puis les maudits autotunes.
Le Freestyle 4. Ouais, là, ça.
Le autotune sur toutes les maudites tunes.
Là, il a abusé.
Ça n'a même plus rapport, c'est plate. Puis je l'aimais quand il était juste réalisateur, je pense qu'il a commencé de même avec Common, puis cette gang-là.
Moi, je trouve ça.
Ouais. Le single avec Madlib, comme qu'on a déjà parlé, oui. No More Parties in LA, c'est vraiment.
C'est la tune. Bon, ben moi, le gars, je vais sauver un peu de temps parce que tant qu'à avoir mon commentaire sur Kanye West. Je vais aller avec Rihanna, l'album Anytime. Moi je trouve, finalement, faut faire vite. C'est de la pop américaine qui s'effrite. C'est-à-dire que Kanye West, tout est dépouillé. Tout est des sons raw. Tout le monde vient s'inspirer de Dead Grips, des trucs comme ça. Puis il y a plus de. Ça fait longtemps qu'on a plus un sous-sous, tu sais, un petit beat funk ou quelque chose comme ça. Tout s'effrite. C'est de la pop triste. C'est pas nécessairement parce que c'est mal fait. C'est voulu que ça soit comme ça, mais c'est triste. Il y a plus rien. Elle est en train de tomber. Et elle n'est plus inspirée comme avant. Et voilà. En passant, Rihanna chante quand même super bien. Puis il y a quand même des tubes qui pognent, mais il n'y a plus rien. Où est les clopes sucrées qu'on voulait? C'est fini, ça se marre. Et puis, on est dû pour un changement. Ça fait 10 ans qu'ils nous bombardent avec ces gros tubes-là. On est rendu sur autre chose. Go-Go Penguin, maintenant, l'album Man Made Project. Moi, je dis non. Je suis curieux juste de voir.
Non.
Tu dis non?
Non, okay. André Gagnon sur l'acide, on peut pas triper.
C'est bon. On aime la palette de couleurs. En tout cas, en fait, moi, j'aime la
palette
de
couleurs. Vous aimez le piano?
Que Go-Go Penguin. Ben, regarde, tu vois, on s'entend là-dessus. Habituellement, j'aime beaucoup ce que Go-Go Penguin font. Sauf que là, il y a trop de piano. Il y a des riffs qui se font piano. Il y a des riffs qui se font saxophone. Il y a des riffs qui se font guitare. Là, le problème, c'est que c'est une belle palette de couleurs, mais il devrait changer de pinceau de temps en temps. Parce que c'est tout le temps comme de la grosse gouache.
La grosse wash.
Bon, vas-y.
OK, Louise Attaque, Anomalie. Gros nom. Vraiment déçu, man. Les violons sont partis. Le son festif est parti.
Il y a encore un violon. Il
est très caché. Il est plus à la québécoise comme que j'aimais.
À la québécoise. Non, mais c'est pas québécois.
Non, mais je sais, c'est pas québécois. Le Guetta Roussel, il est parti en solo. Il a fait du pop électronique, whatever. Il a ramené ce son-là, il a tout gaffé. Non, ça marche pas.
Il n'y a pas d'électro tant que ça. Mais moi, en tout cas, c'est moi qui étais aussi, justement, il me donne l'impression qu'il nourrit d'en face. Tu sais, l'intérieur, une espèce de brebis qui.
Bon, là-dessus, on entend un
autre. Puis t'étais mieux de pas aimer ça parce que. On avait parlé de Mathieu Bougat. Puis les Français, j'ai ça, style réaction, machin.
Bon.
Bon, non seulement t'étais raciste, mais là,
t'étais mieux, raciste!
T'étais mieux de pas aimer Louise Attaque, mais j'en aurais voulu à mort. Ah, c'est-tu déjà terminé?
Ben oui.
C'est déjà terminé, là. Quand il est en train de dire qu'il est devenu beau, mesdames et messieurs.
Tu
parles trop, on va reviser, c'est moi qui fais le montage, j'ai vu la longueur. Vas-y, on vous invite à continuer à nous suivre. On termine l'émission comme ça. On est bien content d'avoir reçu Alexandre Loiseau. Oui. Donc, je vais juste vous rappeler qu'on va continuer à jaser avec lui là, backstage. Et puis, vous allez pouvoir suivre ça pour ceux qui s'intéressent. On va parler de Profloir, qu'on va parler un peu de sa carrière tantôt. Fait que ça sera un suivi. Puis nous, on se revoit dans deux semaines pour l'épisode 5. On vous dit qu'on
bye!
C'est 109 Cérès qui joue là. Ciao!
C'est bon!